Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Aujourd'hui, je vais vous parler de l'église. On va vraiment parler de l'église. Parce que vraiment, en étudiant la parole, en étudiant aussi le christianisme d'une manière générale, Dieu concentre ses efforts et ses yeux sur l'église. L'église est dans le cœur de Dieu. J'étudie les ministères, j'ai étudié, je continue encore à réétudier les ministères dans le monde entier. Parce que vous savez, étudier les ministères des autres vous inspire, vous montre certaines choses. Des gens qui tournent toujours autour d'eux-mêmes en disant « nous sommes le ministère », c'est très dangereux. Il est passionnant d'étudier ce que d'autres font pour le Seigneur. Pour en être justement inspiré. Pour chercher à voir là où Dieu agit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui à son peuple? Où est-ce qu'il veut qu'on oriente l'église locale? Et quand on étudie les ministères, que ce soit les ministères d'église locale, donc de pasteurs, qu'on étudie les ministères d'évangélistes, par exemple, puis toutes sortes de ministères qui sont là pour souvent, je dirais, être des satellites à l'église locale. Par exemple, des ministères envers les jeunes. Des ministères d'évangélisation dans les universités. Des groupes de prière. Tout ce qui peut être ministère au travers des médias, et ça devient de plus en plus important aujourd'hui.
Sites
internet, des choses comme ça. Et en fait, on étudie ça. Quand on étudie ça, ceux qui durent dans le temps et qui portent des fruits dans le temps sont toujours ceux qui respectent l'église locale et qui la mettent toujours en avant. Ça veut dire, je touche une âme perdue. Qu'est-ce que cette âme qui maintenant rentre dans le royaume va devenir? Est-ce que je suis là simplement? Par exemple, je connais des sites internet qui sont intéressés seulement à savoir combien de visites ils vont faire dans la journée. Mais non, des sites chrétiens, je parle. Mais non pas de savoir exactement quel est le fruit réel. Je connais des évangélistes qui sont tristement intéressés par simplement réunir une foule et voir un certain nombre de gens qui s'approchent et dire voilà la moisson. Mais qui ne s'intéressent pas à l'église locale. Et c'est triste. On voit toutes sortes de choses qui se font. Et croyez-moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, j'ai vu des médias aussi.
Et
j'aime bien souvent prendre l'exemple de TBN, Trinity Broadcasting Network, qui est la plus grosse chaîne de télévision américaine de chrétienne. TBN a vraiment réussi aujourd'hui. Parce qu'ils ont toujours mis l'église locale en avant. TBN a plus de 30 ans d'existence. Ils ont démarré quasiment avec rien. Et le succès de cette chaîne de télévision, le rayonnement mondial, c'est parce qu'il y avait toujours la focalisation sur l'église locale. Au début, ils avaient mélangé beaucoup de choses. Et de plus en plus, ils ont compris qu'il fallait travailler en collaboration avec les églises locales. Personnellement, c'est ce que je suis en train de faire avec le site enseignemoi.com. On est en train de s'orienter énormément en partenariat avec des églises locales du monde entier. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une clé.
C'est
important pour comprendre
qu'est-ce
que Dieu va faire et comment Dieu fait les choses. Dieu agit au travers de son église.
Et à travers
des églises locales. C'est là où Dieu met vraiment toujours le point focal.
Alors,
on va regarder un petit peu aujourd'hui ce que ça veut dire le mot église.
Le mot
église vient d'un mot grec qui est le mot grec ecclesia.
Et là,
ça provient de deux mots d'une préposition ek qui signifie hors de. Ekklaleo qui veut dire appeler. Donc littéralement, en fait, le mot église vient d'un mot grec qui veut dire appeler hors de, à sortir de. C'était un mot couramment utilisé à l'époque de l'Empire romain où le Nouveau Testament était écrit. En fait, c'était souvent un rassemblement de gens qui avaient à l'époque des objectifs sociaux ou politiques.
D'ailleurs.
Ou qui discutaient des lois. Pour une ville ou dans une ville ou dans une autre. Ce rassemblement s'appelait toujours l'Ecclésia. Quand on convoquait l'Ecclésia, c'était des gens donc de la ville qui étaient choisis, qui venaient dans un endroit et qui parlaient de différents sujets en vue de prendre des décisions. C'était ça l'Ecclésia, et ce mot a été pris pour l'église. Rassemblement de personnes avec un but particulier.
Église, nous voulons guhura kw'abantu bafite numero yisangije bisangije cyanke ishengero mu kirundi.
Alors on va voir un petit peu comment ce mot ecclesia était utilisé dans le Nouveau Testament.
Ingene mu isezerano rishasha iri jambo ecclesia ryakoreshejwe.
Alors d'abord, ce mot ecclesia nous décrit l'église qu'on appellera universelle.
Urumva ubwa mbere iri jambo ecclesia ritwereka ishengero rusange ryo kwisi yose.
Qu'est-ce qu'on entend par église universelle?
Eh
bien, on va s'apercevoir que c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau sur la terre entière. C'est tous les chrétiens nés de nouveau qui sont sur la terre, quel que soit l'endroit où ils vont d'une manière générale, où ils se reconnaissent dans une église dite locale. On va parler de l'église locale un peu plus loin. Ils peuvent être dans différentes dénominations. Et là, faites très attention à une chose. Il
n'y
a aucune église locale qui a la vérité pour elle seule.
Il
n'y a pas non plus d'église où tout le monde à 100% est né de nouveau. Et il n'y a pas d'église traditionnelle en général où il n'y a personne qui est né de nouveau. Faites attention à ça. Moi, je connais des gens qui vont à l'église catholique qui sont nés de nouveau. Et je connais aussi des gens qui vont à l'église protestante qui ne sont pas nés de nouveau. Soyons clairs. Ne mélangeons pas salut avec nom d'église. Parce que ça, c'est un problème qu'on a eu et qu'on a encore. Les gens pensent qu'un baptême, c'est le salut. Ils pensent qu'aller dans une église ou chanter à la chorale, c'est le salut.
Toutes
sortes de choses qui sont fausses et qui créent beaucoup de confusion.
D'ailleurs.
La vraie église avec un grand E, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire qui ont fait une expérience personnelle avec Jésus, qui se sont repentis sincèrement de leurs péchés, et qui un jour J, une H, une minute M, une seconde S. Tu l'as appris par cœur maintenant. Eh bien, on fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Le miracle de la nouvelle naissance. Et ça peut se faire à la maison. Ça peut être fait dans un groupe de prière, dans une église locale, dans une croisade,
mugikorane,
à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit,
umunganyu
ariwo wose, où il y avait un cœur qui avait soif,
ahantu ariwo hose,
qui a crié au Seigneur,
wasemereye ukiri
Imana, et qui a dit, Jésus, sauve-moi.
Ukavuga uti Yesu nkize.
Délivre-moi de mes péchés.
Nkuramo byaha ndimwo.
Viens dans mon cœur et sauve-moi.
Gwino mu mutima wanje nkize Yesu.
Et quand on a cette révélation de Christ,
umuntu amaze guhishura uko Christ,
ça fait de nous
bica bitugira
un membre,
umuntu,
un membre,
urugingo,
de l'Église universelle avec un grand E.
Gwino yose ku isi.
Ça, c'est la seule condition. Être né de nouveau. Et Dieu utilise cette expression pour parler de l'Église locale. De l'Église générale, pardon. De l'Église universelle, excusez-moi. Regardons plusieurs références là-dessus pour vous montrer ce que dit l'Écriture. Dans Matthieu 16, une parole d'ailleurs qui était extrêmement mal interprétée. Aujourd'hui, je veux mettre des fondations en vous à propos de l'Église locale.
Ce n'est
pas un message où je vous parlerai de leadership.
Ce n'est
pas un message où je vous parlerai du don de foi spéciale. C'est un message de fondation sur l'Église. Parce que vous avez besoin de fondations dans votre vie spirituelle à propos de l'Église. De compréhension sur ce qu'est vraiment l'Église. Pour mieux savoir comment être efficace et remplir la grande mission que Jésus nous a
laissée.
Donc là, on parle de l'Église dite universelle, en général. Tous les chrétiens nés de nouveau qui sont disséminés sur toute la terre, qui peuvent être dans l'Église X, Y ou Z. L'Église locale. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre, Pierre qui a répondu à une question. Et vous dites, qui est-ce que je suis, moi, vraiment, moi, là, ce Jésus-là, que vous avez devant vous, c'est qui, finalement? Et Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, mais c'est pas la chair qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Le mot clé ici, c'est le mot révélation. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Souvent, vous verrez dans un verset, pour comprendre la signification d'un verset, en avoir une bonne interprétation, il vous faut des mots clés, des mots qui vous montrent certaines choses, qui vous ouvrent la porte à l'interprétation. Et Jésus lui répond, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Je ne
veux pas entrer dans l'interprétation de ce verset parce que certaines églises se sont appropriées ce verset.
Pour
dire que Pierre était le fondateur de l'église.
En
fait, quand on étudie le texte grec ici, il y a deux mots qui sont utilisés quand Jésus appelle Pierre, et sur cette pierre, il utilise un autre mot grec. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans l'interprétation ici, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ici, il dit, je bâtirai mon église. Jésus ne parlait d'aucune église locale, il parlait de l'église en général. L'église universelle sur laquelle, je dirais, sur quoi est bâtie l'église universelle, c'est Jésus. Elle est bâtie sur Christ. Bien évidemment. Dans Éphésiens 3, verset 10 et verset 21, là on parle encore de l'Église universelle, de l'ensemble des croyants nés de nouveau. Paul nous explique toutes les révélations qu'il a eues du mystère de la croix.
Et
ce sont des versets, entre autres, que j'utilise quand j'enseigne sur l'identification, c'est-à-dire ce que Jésus a réellement fait, réellement le sacrifice de Jésus, ce que c'est et quel impact il a eu, étape après étape, dans le monde spirituel.
Et
un très beau voyage dans le sacrifice de Jésus.
Pour nous montrer
de quoi il nous a racheté, etc., chaque étape.
Et,
Paul avait reçu ces révélations.
Paulo yari yararonse kugwishurirwa.
C'est ce que Jésus a réellement fait à la croix.
Kubijanye n'ivyo vyukuri Yesu yakoze
ku musaraba. Non pas ce Jésus qu'on dépeint avec du sang partout, avec des plaies partout.
Atari wa Yesu bama baducapira afise ibikomere hose n'ivyo
rakomere. Ce sont les films qui nous montrent ça.
Amasina mabya atwereka n'ivyo birahari.
Par contre, ce que les films ne pourront jamais nous montrer.
Nubwo bihari n'ivyo amafilme ashobora kutwereka.
C'est ce qui s'est réellement passé à la croix du calvaire spirituellement.
Hari kindi cabaye mu buryo bw'impuhe mu cyo gikomeye gusumba bya
Mais la parole de Dieu nous le décrit.
Et
Pierre avait reçu toutes ces révélations. Paul, pardon, avait reçu toutes ces révélations.
Paulo rero niwe yari yaronse kugwishurwa kose.
Et il va dire ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité.
Abanyefeso gatatu mu babiro murongo wa 10 baravuga ngo kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bahantu ho mwijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bwi bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi.
Là ici c'est pareil, on parle de l'église en général, l'église universelle, l'ensemble des croyants nés de nouveau.
Omagaha bavuga ishengero rimwe ecclesia twavuga byose hamwe ku isi.
C'est par cette église que Dieu montre sa sagesse au travers de la révélation que l'église a du sacrifice de Christ.
Ngoni bice muri ishengero ishe abantu bamenyera mu bwenge bw'Imana, Imana igaragaza hano ku isi.
Au verset 20 et au verset 21, Paul va encore nous parler de l'église, il va utiliser le mot ecclesia encore d'une manière générale pour l'église.
Mirongo 21, Paul ongera gukoresha ijambo ecclesia agomba kuvuga kandi ku ishengero muri rusangi.
Il est dit or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles.
Ngo nukwishobora gukora ibirenge cyane byo dusaba n'ivyo twiyumvira byose nko kubushobozi bwayo budukoreramwe buri icubairo kibicayo mwishengero no muri Kristo Yesu kugeza kubuzukuruza bose bibihe bitazoshira.
Il y a bien d'autres versets qu'on pourrait utiliser, là on va pas faire une étude exhaustive là-dessus.
Hari andi maverse dushobora gukoresha n'twe kubisoma byose ngo tubiheze.
Mais là c'était quelques exemples pour vous montrer que ce mot ecclésia est utilisé en partie dans l'écriture pour décrire l'ensemble des croyants nés de nouveau. Alors, qu'est-ce que caractérise l'ensemble de ces croyants nés de nouveau?
C'est
ce que Jésus va prier et qui va être exaucé dans Jean 17 avant la croix. Tristement, certains chrétiens prient encore alors que cette prière a été exaucée. Dans Jean 17, versets 20 et 21, Jésus est en train de prier son Père juste avant la croix du calvaire. Et il va prier quelque chose de particulier qui est une prière qui est déjà exaucée maintenant depuis le sacrifice de Christ. Elle a été exaucée cette prière. Versets 20 et 21 disent: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc Jésus avait prié pour ses disciples, mais il avait aussi prié pour tous ceux qui viendraient, qui croiraient au travers de la parole, entre autres c'est vous et moi, tous ceux qui ont cru depuis. Et il va dire la chose suivante, il va prier la chose suivante: afin que tous soient un comme toi aussi tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé.
Vous
savez, il y a des chants qui chantent Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous, fais de nous. Et en fait, on est déjà un en
Christ.
Partout où tu vas sur cette terre, quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa nationalité, si tu rencontres quelqu'un et qu'il est capable de dire: tu sais, moi, un jour, je me suis repenti de mes péchés. Et j'ai accepté Jésus.
Na,
ma vie a été changée. Je sais que je vais au ciel.
Ati, Yesu,
je sais le miracle que j'ai vécu. Je suis né de nouveau.
Cette personne,
elle a le Saint-Esprit en elle. Comme tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu es né de nouveau. Et elle est un avec toi. Elle fait partie du corps. Du corps de Christ avec un grand C, c'est-à-dire de l'ensemble des croyants nés de nouveau. Quel que soit l'endroit de, sur cette terre. Actuellement, à cette heure même, il y a des gens qui sont en train de louer et adorer Dieu dans différentes parties du monde. Où les gens sont encore éveillés, ou c'est peut-être le matin, et ils sont en train de louer et adorer Dieu. Ça, c'est le corps de Christ.
D'une
manière générale, à partir du moment où quelqu'un est né de nouveau. Et tu reconnais cette personne par son appartenance spirituelle. Comme je vous le rappelle, dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Il n'y a pas de gens qui peuvent être entre deux en disant, moi je suis neutre, je suis ni pour Dieu, ni contre Dieu, c'est-à-dire ni pour le diable. Soit
tu es
dans le Seigneur, tu es né de nouveau. Soit tu es dans les ténèbres et tu es en route pour l'enfer. Il
n'y
a pas d'autre alternative.
Il n'y
a pas d'autre possibilité.
Il n'y
a pas d'histoire de baptême, de religion, d'appartenance à une église Y, Z ou tout ce que vous voulez, ou W. Là, c'est une question de royaume. Soit
tu
es dans le royaume de Dieu, soit tu es dans le royaume de Satan. Soit tu as le passeport divin, soit tu as le passeport satanique. Tu peux changer de passeport si tu as le passeport satanique. Tu acceptes Jésus, tu peux avoir le passeport de Dieu avec une nouvelle nationalité,
un nom nouveau
signé par le sang du maître qui t'aura pardonné tes péchés et qui aura effacé ta vie passée. Et ça, c'est ton choix. La deuxième façon, la deuxième manière d'utiliser ce mot
ecclésia,
qui veut dire donc église,
c'est
l'église locale. Qu'est-ce que c'est que l'église locale? Ce sont des gens qui se rassemblent régulièrement dans un même lieu, qui reconnaissent une autorité spirituelle,
entre
autres,
un pasteur,
et qui viennent donc régulièrement et qui participent à une vision. Ça, c'est l'église locale. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu des églises locales? Parce que s'il n'y avait qu'une seule église dans le monde, on serait obligé d'aller tous les dimanches ou X fois par semaine dans cette église. Imaginez-vous si l'église seule que Dieu voulait serait en Afrique du Sud. Pour louer et adorer Dieu avec les frères et sœurs, il faudrait être en Afrique du Sud.
Donc,
logistiquement, ça posera des problèmes. Donc Dieu a voulu des églises locales. Des endroits où les chrétiens nés de nouveau puissent se rassembler et dans lesquels il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se produire. Et on va voir justement le rôle de l'église locale. D'abord, on va regarder ce que l'Écriture dit. Par exemple, dans Romains 16:1, il nous est parlé d'une église. Tu te rappelles du nom de la ville en Kirundi, hein? Tu te rappelles pas, hein?
Ah non.
Alors, Romains 16, verset 1, il est dit, je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Vous connaissez tous, hein? Donc c'est une ville
sacrée.
C'était donc une ville. Donc là, on parle d'une sœur, d'ailleurs, qui était dans le ministère. D'ailleurs, ce n'est pas mon sujet là, mais je pourrais vous le prouver dans le grec. Elle était certainement pasteur. De l'église de Sancré. Sancré, c'était une ville.
Donc
là, on ne parle plus d'église universelle, on parle d'une église locale dans un endroit spécifique.
Dans
Colossiens
4,
au verset 16,
là
on va parler de l'église des
Laodicéens.
L'église de Laodicée. Là encore, Laodicée c'était une ville. C'est une ville
d'ailleurs.
Et en fait, il est dit dans Colossiens 4, 16, quand cette lettre aura été lue chez vous, l'église de Colosse, donc dans la ville de Colosse, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous, vous lisiez également celle qui vous arrivera de
Laodicée.
On pourrait montrer bien des références à propos de l'église
locale.
Parce que Dieu utilise plusieurs fois cette expression dans sa parole dans le Nouveau Testament.
L'église
qui se trouve dans tel endroit, l'église qui se trouve dans tel endroit, etc. Donc nous savons que l'écriture est claire là-dessus. Dieu peut décrire l'église universelle, ensemble des croyants nés de nouveau sur toute la planète, mais aussi Dieu voit les églises locales. Alors troisième chose, je dirais troisième façon dont on utilise le mot ecclésia dans le Nouveau Testament, c'était les églises de maison. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait des églises de maison? Et ça, attention, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire qu'il faut prier à la maison.
On
n'a pas besoin d'église où il y a un pasteur, il faut le Seigneur montre qu'il faut que je prie à la maison. On verra que ça, ce n'est pas du tout scripturaire. Et d'ailleurs, dans chacune de ces églises de maison, il y avait des responsables. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on fonctionne selon les principes divins. Ne vous faites jamais rouler avec des gens qui vous diront, moi tu sais, je fréquente aucune église locale, le Seigneur m'a dit que je devais prier à la maison. Pauvres gens qui sont dans un piteux état spirituel.
C'est triste.
Ces gens qui sont comme ça, qui veulent ne pas se reconnaître dans une église locale, c'est une catastrophe. Ce sont des illuminés qui vous raconteront qu'ils ont toujours plein de révélations. Le Seigneur leur parle tous les jours. Ils font les choses les plus extraordinaires, ils ont les grandes visions du ciel. Et leur vie est une catastrophe. Et en général, ce sont les plus grands mendiants de la terre. Ils viennent chez vous parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il faut leur donner à manger, parce que parce que cela. Et quand ils ont des problèmes de péché, ils disent non, le Seigneur m'a dit que c'était bien ce que je faisais. En fait, ils ne veulent pas être sous une autorité spirituelle, ils ne veulent pas respecter les règles de l'église locale. Alors, on a quelques exemples dans la parole de Dieu à propos des églises de maison, et je vais vous montrer pourquoi ces églises existaient à l'époque particulièrement. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 19, Paul va nous parler des églises d'Asie.
L'Asie
mineure, c'était en fait l'ouest de la Turquie. Et il dit, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans le Seigneur. Alors parfois une église locale peut démarrer dans une maison. Ça s'est vu bien des fois. Quelqu'un reçoit un appel du Seigneur. Il commence à amener des âmes au Seigneur. Et il sait qu'il doit démarrer une église.
Donc
je parle des vraies œuvres de Dieu, parce qu'il y a des fausses œuvres de Dieu. Il y en a un paquet aussi. Et la personne démarre dans son salon, elle a 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Et au bout d'un moment, évidemment, elle bouge dans un endroit. L'église démarre. Par exemple, il y a un pasteur très connu en Afrique du Sud qui s'appelle Ray McCauley, qui au début des années 80 a démarré une église dans sa maison. Et aujourd'hui, cette église a 30 000 membres. C'est une immense église, un ministère extrêmement bien établi.
Johannesburg.
Et en fait, on voit que dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre d'églises de maison. Il y a plusieurs exemples. Et là, il faut revoir aussi le contexte. Pourquoi est-ce qu'il y avait des églises de maison? Parce que tout simplement, il y avait de la persécution. Dans l'Empire romain, le christianisme n'était pas légal. Ça veut dire que personne ne pouvait normalement exercer librement sa foi.
Donc,
quand vous lisez l'Écriture, d'ailleurs, vous ne voyez pas de bâtiment.
Parce
que ce n'était pas légal. Et une des raisons pourquoi le christianisme était illégal à l'époque, c'est qu'on disait que Jésus était le roi. Et ça, c'était passible de mort. Parce que normalement, il n'y avait que l'empereur qui pouvait être connu comme roi.
Donc,
il va y avoir un certain nombre d'églises de maisons. Il faut dire aussi que les recherches qui ont été faites dans l'Empire romain, il y avait des gens qui avaient des grandes propriétés.
Et
qui souvent avaient de grandes maisons. Par exemple, Corneille avait une grande maison. Il devait y avoir au moins 200 personnes dans l'endroit où Pierre a prêché. Et en fait, ils avaient de très grandes maisons où il y avait des grands endroits où ils pouvaient se réunir. En tout cas pour les citoyens romains, entre autres. Bon, ce qu'on peut voir ici, c'est que les églises de maison ne sont pas une finalité. C'était un passage, oui, pour certains, et ça l'est aussi quand on démarre des églises parfois.
Mais
l'église dans une maison n'est pas une finalité, c'est pas possible. Donc voilà un peu toutes les façons dont le mot était utilisé. Alors, où est-ce que l'Ecclésia n'a jamais été utilisé? Dans quel domaine?
Eh bien,
d'abord pour décrire un bâtiment.
Nulle
part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous verrez que le mot Ecclésia va désigner un bâtiment. Non, il
ne
désigne pas un bâtiment.
Puisque
l'Église, ce sont des gens.
Donc,
c'est vrai qu'on a pris comme terme souvent l'église. Par exemple, l'église El Shaddai, on va dire, c'est l'Odéon Palace. Non, c'est pas l'Odéon Palace, c'est vous et moi.
Mais souvent,
c'est un abus de langage aujourd'hui. On se comprend quand on est enseigné, mais ça reste quand même un abus de langage.
Il faut dire.
Et d'autre part, là où c'est jamais employé, c'est pour une dénomination.
Oui,
donc une dénomination, c'est quoi? C'est un groupe de personnes. Un groupe d'églises, pardon. Un groupe d'églises qui sont sous une grosse association, par exemple. Et on ne trouve pas cela non plus dans l'Écriture. Paul a fondé un certain nombre d'églises. Par exemple, dans le premier voyage missionnaire de Paul, qui commence, Paul et Barnabas, donc dans Actes 13,
et Actes
14, et vous verrez que Paul, avec Barnabas, ils vont fonder donc 7 églises. Mais il n'appelle pas ça, je dirais, l'Église. Ils appellent ça plusieurs églises selon les endroits. Parce qu'il est vrai qu'il y a certaines dénominations qui se sont emparées, entre guillemets, l'Évangile. Et qui disent que, bah, finalement, si vous faites partie de cette église-là, entre guillemets, ou de ces églises-là, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Et si vous ne faites pas partie de cette dénomination-là, ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est ce qu'on appelle être sectaire. Être sectaire, c'est penser étroit. Dire qu'on est les seuls à avoir la vérité, c'est faux. La vérité n'appartient à personne parce que la vérité c'est une personne, c'est Jésus. Et souvent malheureusement il y a des confusions qui sont faites. Ou des gens ou des dénominations ou des groupes d'église essayent de s'approprier la vérité. Et ça, ça peut être effectivement assez dangereux. Et il ne faut pas se laisser manipuler par ce genre de discours. Il faut comprendre que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on reconnaisse aussi les autres qui ont fait la même expérience que nous.
Comme
je disais tout à l'heure, ceux qui sont nés de nouveau font partie de l'Église avec un grand E. Nous devons les reconnaître comme frères ou sœurs en
Christ.
Alors maintenant, on va se focaliser sur l'Église locale. Parce que c'est ce qui m'intéresse un peu plus au niveau de mon enseignement ce matin. Pour voir un peu le but, ou les buts, dirions-nous, de l'Église locale. Parce que comme je le disais dans mon introduction, quand vous regardez l'Écriture, quand vous regardez l'histoire de l'Église, il n'y a pas de secret, l'Église locale est incontournable. Internet, les sites chrétiens ne remplaceront jamais l'Église locale. Les télé-chrétiennes, les radios chrétiennes ne remplaceront jamais l'Église locale. Les meilleurs livres chrétiens du monde ne remplaceront jamais l'Église locale. L'Église locale est quelque chose que nous vivons ensemble. Rester à la maison pour prier seul ne remplacera jamais l'Église locale. Il y a des objectifs que Dieu a voulu dans l'Église locale. Alors, l'objectif primordial de toute œuvre divine reste toujours Matthieu 28. Matthieu 28, 19, ça reste et ça restera. Et ne vous embarquez jamais en dehors de ce que Jésus a dit ici. Si vous le faites, c'est dangereux. C'est très dangereux de se mettre dans des trucs qui font en dehors de ce que Jésus a dit ici. Il y en a qui l'ont fait dans l'histoire de l'Église, ils se sont largement égarés. Jésus dit au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, amener quelqu'un à Jésus, c'est une chose. Maintenant, il faut que cette personne puisse s'épanouir. Sinon, elle ne fera pas long feu dans le Seigneur. On est comparé à un jardin. Et en fait, chaque personne est comme une plante dans le jardin de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes comme une plante dans le jardin de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu 13. Nous l'avons vu la dernière fois avec la parabole du semeur. La semence, c'est la parole. La terre, c'est le cœur de l'homme. Et il y a quelque chose qui pousse. Nous sommes les plantes dans le jardin de Dieu. Nous sommes des plantes dans le jardin du Seigneur. Et là, il faut faire très attention. Personnellement, je suis un très mauvais jardinier. Et si un jour vous me confiez une plante, sachez sûre d'une chose, la chose que je ferai, c'est la faire mourir. Je suis très mauvais dans ce domaine-là. Je
ne
suis pas un passionné des plantes, mais je vous garantis.
Et
une plante a besoin de certaines choses. Elle a besoin de soins. Si vous lui donnez ce qu'il lui faut, elle va grandir, elle va s'épanouir, elle va se reproduire. C'est strictement la même chose pour les chrétiens.
Et
strictement la même chose pour les églises locales.
Donc
là, il va falloir qu'on comprenne ce que Dieu veut. Qu'est-ce que doit être une église locale? Ça doit être une pépinière dans laquelle une semence vient et est plantée. Et une plante va pousser, va s'épanouir, va porter du fruit et se reproduire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est sauvé. Soit dans l'église, par exemple ici à El
Shaddai.
Soit une personne reçoit le Seigneur dans une croisade. Dans un groupe de
prière.
Cela seul. Parce qu'elle a entendu l'évangile de quelqu'un. Elle reçoit le Seigneur. Quelqu'un qui l'a amené à Christ. Elle a regardé une émission de télé, a reçu le Seigneur. Entendu une émission de radio, a reçu le Seigneur. Lu un livre chrétien où il y avait le message de l'évangile, elle reçoit le Seigneur. Qu'est-ce que cette personne va devenir? Qu'est-ce qu'elle doit devenir? Elle doit devenir une superbe plante dans le jardin de Dieu. Et la pépinière de Dieu, c'est l'église locale. Il
n'y
en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Dieu a voulu l'église locale pour qu'une personne qui a reçu le Seigneur puisse grandir, puisse être protégée, puisse être nourrie, puisse avoir de quoi boire, puis commencer à porter du fruit. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Donc l'église locale doit converger, amener les âmes au Seigneur et à les faire grandir dans une atmosphère divine. Une église qui ne fait pas ça, c'est une église qui passe à côté du but principal que Dieu a assigné à l'église locale. Tout doit converger pour que des gens puissent recevoir le Seigneur. Donc une église locale doit être productive au niveau de l'évangélisation. Pour l'évangélisation, une église doit produire. Une église qui se constitue avec les chrétiens des autres églises, je le dis toujours à quelqu'un qui veut démarrer une église. Je dis, ta vraie église, ce sont tes nouveaux convertis. Et les personnes qui t'enverront, que Dieu t'enverra, pardon, qui vraiment trouveront quelque chose de très différent dans ton église locale. Et ça, c'est une puissante vérité. C'est une puissante vérité. Une église locale doit produire des nouveaux convertis. Une nouvelle église locale ne doit pas être un déplacement de chrétiens. Sinon, il y a un problème ici. Celui qui la démarre, d'ailleurs, il n'ira pas loin. Parce que
ce
n'est pas scripturaire. Il va se retrouver avec tout un tas de problèmes, d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'église doit d'abord évangéliser.
Par quel moyen
une église évangélise? D'abord avec chacun qui est un membre. Il faut que vous réalisiez que vous êtes un membre. Dieu nous dit que nous sommes chacun d'entre nous un membre de son corps. C'est une révélation que Paul a reçue dans 1 Corinthiens 12. Et là, je tiens à vous interpeller chacun d'entre vous. Si Dieu vous a planté dans cette église,
et
ce n'est pas pour vous dormir dans un petit coin. Non. Vous devez vous épanouir. Mais vous devez comprendre qu'au travers de l'épanouissement, vous allez apprendre à découvrir quel type de membre vous êtes. Donc, un instrument, un outil pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas des gens qui viennent à l'église pour venir à l'église. Et attendre que Jésus revienne.
isagaruka.
Dieu veut une église
Imana igomba
kuba
ishengero rinyiganyiga rikora
imirimo. Qui évangélise.
Rivuga ubutumwa bwiza.
Qui amène sa gloire.
Rizana icyubahiro cy'Imana ku isi.
Et ça c'est notre choix.
Akora ko no guhitamwo kwacu.
Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12.
Abiko no mbere 12.
À partir du verset 14.
Kuva ku murongo wa 14.
Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre mais de plusieurs. Verset 15. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, un seul et même membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête de dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 27, en qui on lit, s'il te plaît.
Reka nsome umurongo wa 27. Ngo namwe muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawo.
En fait, Dieu nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes un membre. Une église locale qui est largement comparée ici au corps humain est à la fois un organisme et à la fois une organisation. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme? Qu'est-ce que c'est qu'une organisation? Un organisme, c'est quelque chose de vivant. Quelque chose qui se coordonne et qui marche ensemble les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on compare ça au corps, chaque membre du corps. Une organisation, c'est quoi? C'est quelque chose qui fonctionne avec des règles. En vue d'arriver à un but. Par exemple, si Steve était là avec tous les membres de son corps, mais s'il n'y avait aucune loi pour régir tous ses membres, d'un seul coup, il se mettrait à dire n'importe quoi,
ou
à ne plus parler, il lâcherait son micro qui tomberait par terre, il n'aurait pas une coordination. Vous savez, comme les gens paralysés, ou à moitié paralysés. Ils ont leurs membres, mais ils n'arrivent pas à ordonner leur mouvement. Et c'est strictement la même chose avec l'église locale. Nous sommes les membres, mais nous devons fonctionner selon une certaine organisation pour être efficace. Une église locale doit être efficace. Elle doit porter du fruit. Elle doit amener un changement là où elle se trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une église locale? Quels sont les, entre guillemets, les avantages de l'église locale? D'abord, quand quelqu'un vient à Jésus, il a besoin d'instruction dans la parole. Ça, c'est toute la partie enseignement, nourriture spirituelle. Et ça, c'est super important. On a besoin d'être nourri. On a besoin de connaître la parole. Parce que la parole, c'est vraiment notre nourriture. C'est là où on découvre la révélation de Dieu. Rappelez-vous, nous avons été sauvés parce que nous avons entendu la parole. Elle a produit ce miracle donc surnaturel dans notre cœur parce que nous l'avons cru et nous avons agi sur cette parole en demandant pardon pour nos péchés, en croyant au sacrifice de Christ et en donnant notre vie à Jésus. On l'a reçu et nous avons été sauvés. Donc la parole va nous donner cette instruction dont nous avons besoin pour grandir, pour comprendre qui est Dieu, comment son royaume fonctionne, etc. Une autre chose, c'est la protection. Les gens ne s'en rendent pas souvent compte, mais dans l'église locale, il y a une protection extraordinaire. D'abord, il y a une protection contre tout ce qui peut être prédateur spirituel. Fausse doctrine. Et il y a plein de fausses doctrines qui courent à droite et à gauche. Faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui se font passer pour serviteurs de Dieu et qui finalement sont là pour faire du mal aux gens. Souvent les escroquer, souvent faire tout un tas de trucs pour les exploiter d'une manière ou d'une autre. Des trucs qui tournent en secte, des trucs bizarres,
des
trucs qu'on trouve à droite et à gauche. Et quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur, c'est comme un petit bébé. Il est ouvert à tout. Les bébés cherchent une chose, c'est à connaître le monde qui les entoure. Plus ils grandissent, plus ils veulent savoir, plus ils touchent à tout, plus ils veulent se connaître tout. Oui, mais il y a des trous, il y a des obstacles. Il y a du poison. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire du mal. Et il y a aussi cet aspect protection par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Récemment, j'ai entendu plusieurs histoires de femmes qui accouchent et qui meurent. Vous savez, ici, il faut avoir la foi pour aller voir un médecin. Il y en a qui sont graves.
Amen.
Il y a eu 3 cas par césarienne comme ça. J'ai entendu 2 cas de femmes qui sont mortes. Une qui allait mourir, qui est de notre église d'ailleurs. Et Dieu a fait un miracle pendant le séminaire de guérison. Un miracle instantané dans son corps. Alors, il y a toujours une question à se poser. Est-ce que les 2 autres étaient dirigés par le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'elles ont vécu cette tragédie? Est-ce que Dieu veut qu'on vive des tragédies? Est-ce que Dieu est le Dieu des tragédies dans nos vies? Je connais un frère en
Christ.
Il a perdu sa femme au bout de 9 mois. Une césarienne mal faite. Et sa femme est morte. C'est grave, c'est dramatique. L'autre personne qui était guérie dans notre église, elle a eu une césarienne aussi. Et apparemment, je ne sais pas ce qu'ils avaient laissé à l'intérieur. Elle avait une sérieuse infection.
Et on disait,
c'est pas grave, prends un peu de, vous savez, les histoires de paracétamol, le
passe-partout.
Vous allez voir un médecin, il vous prescrit du paracétamol. Alors que vous êtes là en train de souffrir depuis des semaines, il y a un problème quelque part. Et ça devenait grave. Des urines qui étaient vraiment mauvaises. Très très grave. Et Dieu a fait un miracle instantané. Elle est venue un soir pendant le séminaire de guérison, Dieu l'a guérie entièrement. Vous savez, on ne joue pas avec la vie. Des fois, il y a des chrétiens qui partent. Oh, ils sont sauvés, gloire à Dieu. Ça, c'est notre assurance éternelle, au moins.
Vous savez,
c'est jamais triste pour la personne qui part. C'est toujours plus triste pour les personnes qui restent. Amen. Parce que la personne qui part, elle va au Seigneur, elle va auprès du Seigneur. Et Paul dit, la mort m'est un gain. Mais une vie écourtée sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien des fois, il y a des trucs qui peuvent nous tourner autour. Et vous devez être sensible à ça. Il y a une protection divine. Je me souviens, un soir, on avait une réunion, il y a bien des années, qu'on était au Méridien. Et d'un seul coup, on était en train de faire une réunion, on était dans la louange et l'adoration. Et vraiment, le Saint-Esprit me mettait à cœur, il y a quelqu'un qui est en danger, il y a quelqu'un qui est en danger, comme ça, comme ça. On a passé la soirée quasiment à prier pour la protection. Quelques temps après, il y a une sœur qui m'a dit, mais t'es sûr, t'avais rien de plus de la part de Dieu? Je lui ai dit, non, je sentais simplement un danger pour quelqu'un. Je sentais vraiment un danger. On a prié.
turasenga.
Cette sœur,
quelques temps
après,
elle m'a
dit, j'ai échappé à la mort. D'une façon vraiment surnaturelle.
Dieu
est intervenu dans une situation dans sa vie. L'église locale est une protection, frères.
Une
protection physique, mais pas seulement.
Une
protection spirituelle. Quand vous venez, qu'on exerce notre ministère dans la parole, quand on est là en train d'exercer le ministère dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est sur vous. Quand vous sortez d'ici, il y a quelque chose qui est sur vous.
Quand vous
avez un cœur ouvert,
ce sont des
choses que les gens négligent. Les gens ne se rendent pas compte que Dieu a voulu l'église locale aussi pour une question de protection. Aussi parce que tu as des frères et sœurs autour de toi. Et quand tu es en train de faire une gaffe, tu as un frère ou une sœur qui peut dire hey, réveille-toi un peu, tu es en train de faire n'importe quoi. Et la personne commence à te ramener dans le droit chemin. On pourrait dire beaucoup de choses sur la protection divine. Dieu nous dit de veiller les uns sur les autres, non pas d'être des flics les uns sur les autres, mais de veiller les uns sur les autres pour qu'on puisse rester sur la bonne voie. Tout ça, ça fait partie de la protection. Il y aurait bien des choses qu'on pourrait dire sur la protection. Je voulais juste vous faire une petite introduction sur l'église locale. Il y a plein de choses encore que je voudrais vous dire. Là, on va juste se lever, on va prier un moment. Et on continuera dans les prochains temps.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.